Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast Vis-à-vis, le podcast du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, et c'est le podcast de la rentrée. Et oui, il faut bien y retourner pour cette deuxième saison qui nous parle de notre quotidien, des agents du ministère de l'Intérieur, des Outre-mer, qui protègent, qui aident, qui orientent, qui réglementent les moments forts de notre existence et qui sont vraiment plongés dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, j'ai deux personnes fantastiques avec moi qui vont nous parler de leur métier, qui vont nous raconter leurs histoires, leurs témoignages, qui sont au plus près finalement de nos concitoyens, avec un vrai sens du service public, parce qu'on va parler aujourd'hui des gestes qui sauvent, des premiers secours, et peut-être qu'on va même aller plus loin vers des gestes qui ne sont pas forcément de premiers secours, mais qui peuvent sauver. Je ne sais pas si vous le savez, mais on a seulement environ 20% de la population française qui est formée au premier secours aujourd'hui. C'est beaucoup moins que plein d'autres de nos voisins européens, l'Allemagne, l'Autriche, la Norvège, le Danemark. On va peut-être comprendre aujourd'hui pourquoi on est un petit peu à la traîne sur ces premiers secours et peut-être vous donner envie d'aller vous faire former ou vous faire recycler, comme on dit, c'est-à-dire réapprendre si on les a appris il y a très longtemps, parce que des fois, à l'école ou à différents moments de sa vie, on a pu être formé. Moi-même, cet été, j'ai assisté à un massage cardiaque. J'étais pas la première intervenante sur la plage, mais j'ai vu des personnes qui ont fait ces gestes et qui ont permis, en tout cas, au premier secours, de prendre en charge cette personne et de la conduire vers l'hôpital. Je pense qu'on a tous en tête des exemples dans notre quotidien où on peut voir des personnes qui ont ce courage, cette audace de pratiquer ces gestes, même si on les a appris il y a très longtemps. Alors voilà ce dont on va parler aujourd'hui. Alors j'ai avec moi Anthony, qui est sergent-chef, qui est en tenue assez impressionnante de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, et Jérémy, qui est en civil, qui est responsable du pôle éducation à la Croix-Rouge française. Je vais vous laisser tous les deux vous présenter. Peut-être Jérémy, je te donne d'abord la parole.
Oui. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. Donc, moi, en tant que responsable du pôle éducation au sein de la Croix-Rouge française, j'accompagne, j'encadre une équipe qui travaille sur un certain nombre de sujets, donc, dont l'éducation au premier secours. Mais à côté de ça, on peut aussi ajouter l'éducation pour la santé, la question de la réduction des risques de catastrophe, la promotion du droit international humanitaire, qui est une mission très spécifique et statutaire de la Croix-Rouge française, d'autres sujets comme les droits de l'enfant, la lutte contre les discriminations aussi, donc c'est très très vaste.
Donc des missions de formation très très générales finalement. Sur les métiers de premier secours, on voit beaucoup d'associations qui font ces initiations, mais la Croix-Rouge française, c'est quand même une association historique en la matière.
Oui, je pense qu'on est connu et reconnu pour dispenser ces formations de premier secours. Après, c'est vrai qu'il y a en France au moins une bonne vingtaine d'associations qui sont habilitées à dispenser ces formations.
Et il y a de la place pour tout le monde, on n'est jamais trop formé.
Non, on n'est jamais trop formé, et sauver une vie, en fait, ça s'apprend et ça s'oublie aussi. Donc derrière, il y a vraiment une nécessité d'aller se faire reformer par la suite. Comme vous le dites.
Quels sont vos conseils à la Croix-Rouge? Faut aller se faire former tous les ans, tous les deux ans? Il y a une récurrence?
Non, alors nous, ce qu'on pousse déjà, c'est de pouvoir vraiment proposer un parcours de formation dès le plus jeune âge et tout au long de la vie. Après, on sait que sur le rafraîchissement des savoirs et des gestes, c'est très bien après la première formation de le faire après 3 mois, après 10 mois pour mieux ancrer vraiment les connaissances. Après, oui, tous les ans, tous les deux ans, tous les 3 ans, il n'y a pas de rythme particulier.
Et ça s'oublie vraiment, c'est pas comme le vélo, il en reste toujours quelque chose, non ?
Il en reste toujours quelque chose. Après, je pense que c'est vrai qu'en situation d'urgence, sous l'effet de l'adrénaline aussi, garder son bon sens et avoir les bons réflexes, ça peut se perdre. Donc d'avoir ce rafraîchissement, même bref, très régulier, c'est indispensable.
Ok, super. Anthony, à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, que fais-tu ?
Bonjour, donc merci également pour cette invitation. Alors moi, à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, je suis au sein du bureau études et prospectives. Alors ce bureau, il a deux aspects, on va dire. Il y a une partie qui est axée sur l'innovation, on va dire, plus technologique. Donc on développe des nouveaux matériels, des nouveaux engins. Récemment, on est actuellement en train de développer une nouvelle lance qui va nous permettre d'être...
C'est quoi une lance ?
Alors une lance, ça permet d'éteindre les feux. Donc
ah, okay.
C'est ce qui sert à projeter de l'eau sur le feu. Et elle va permettre notamment d'économiser beaucoup d'eau, d'être beaucoup plus efficace, ce genre de choses. On travaille sur nos tenues de feu qui seront refroidies. Des robots d'extinction, vous avez pu voir notamment lors de l'incendie de Notre-Dame, des robots qui sont rentrés à l'intérieur de l'église pour procéder à l'extinction.
Et des innovations en termes de premier secours aussi ?
Alors, en fait, ça, c'est vraiment le volet innovation technologique. On a un deuxième volet qui est prospectif, où là, en fait, on va anticiper sur ce qui va nous arriver. C'est un petit peu ça, de prendre les grandes tendances, le réchauffement climatique, le vieillissement de la population, ce genre de phénomène. Et à échéance 10, 15, 20 ans, on essaie de mettre en place des stratégies pour s'adapter à tout ça. Dans ce cadre-là, il y a eu des travaux menés, notamment de l'innovation sociale. On en a fait.
C'est quoi l'innovation
Alors,
sociale?
l'innovation sociale, comment vous expliquer ça? C'est mettre en place des projets, des stratégies pour améliorer la résilience de la population. Alors, la résilience, on sait que c'est un petit peu un gros mot, mais on
C'est un
va
mot
dire que
compliqué en
c'est
tout
un mot
cas.
compliqué. Mais c'est de l'adaptation. C'est comment faire pour que la société puisse s'adapter. On va le résumer à peu près comme ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on a lancé suite au constat que le lien social était quelque chose de fondamental pour la société. Voilà, donc on a essayé de travailler là-dessus.
Et alors, les premiers secours,
Et alors,
c'est quoi pour vous à la BSPP?
nous, les premiers secours à la BSPP, on veut dire que nous, on a une formation qui fait qu'on a un niveau de formation qui fait qu'on va travailler avec du matériel. Et les premiers secours, c'est vraiment quelque chose qu'on apprend au tout tout début et ensuite on développe nos capacités assez rapidement. Les premiers secours, ils sont venus, notamment les gestes qui sauvent, sont arrivés en 2015 suite aux attentats. Et donc c'est le bureau où je travaille, le bureau études et prospectives, notamment au travers du lieutenant-colonel Fabien Testa, que je tenais à souligner, qui est une personne exceptionnelle. C'est lui qui a un petit peu inventé et développé les gestes qui sauvent. Et l'objectif, c'était de trouver, au moyen d'une sensibilisation relativement courte, le moyen de donner les gestes élémentaires à tout citoyen pour tout d'abord se protéger lui-même, protéger les autres personnes, et ensuite avoir les bons gestes pour limiter la dégradation de la personne, je veux dire, avant l'arrivée des secours.
Et donc, vous avez étudié ce qui s'est passé pendant les attentats pour adapter à ces accidents-là?
Oui, voilà, en fait, l'objectif, c'était de se dire quels sont les gestes élémentaires qu'on doit apprendre aux gens sans trop leur en apprendre pour pas les perdre, mais les gestes qui sont essentiels lors de situations quotidiennes. Ça peut être des situations qui peuvent vous arriver chez vous, mais aussi lors de catastrophes, ou alors aussi lors d'attentats.
Et donc, la formation, elle dure combien de temps?
Alors, la formation, elle dure 2 heures. Voilà, donc c'est assez condensé, mais on vous apprend notamment à protéger votre environnement lorsque vous arrivez. On va vous apprendre à alerter les secours, et on va vous apprendre à faire du massage cardiaque. On va vous apprendre les positions d'attente. Alors, les positions d'attente, c'est dans quelle position on met la personne
Pour préserver.
pour éviter que son état ne se dégrade en attendant l'arrivée des secours.
C'est la position latérale de sécurité,
No
par exemple.
voilà, notamment la position latérale de sécurité. Et aussi, on va vous parler des hémorragies.
D'accord. Eh bien, c'est un vaste programme pour 2 heures.
Absolument.
Côté Croix-Rouge française, ça dure combien de temps cette initiation au premier secours?
Alors, le référentiel sur la formation Gestes qui sauvent reste strictement le même, donc c'est une
D'accord.
formation de 2 heures. Après, c'est vrai qu'il y a tout un panel de sensibilisation et de formation qui peuvent être disponibles pour le grand public. Nous, on parle notamment aussi d'initiation au premier secours, des IPS, qui peuvent être dispensées sur un temps de 4 heures, avec aussi
D'accord.
certaines déclinaisons qui ont des cibles spécifiques. Je pense aux enfants nourrissons, qui sont très intéressants, notamment dans le cadre de la parentalité. Ensuite, bien sûr, il y a le fameux PSC1. Anciennement, il y a quelques années, c'était l'AFPS. Donc, le PSC1, c'est pour premier secours civique de niveau 1. Et donc là, le temps de la formation va être un peu plus long, qui est plutôt sur 7 ou 8 heures.
Et on a un diplôme à la fin.
Et on a un diplôme, c'est certifiant. Mais globalement, à chaque fois, c'est la même chose qu'on apprend aussi. Donc, on le rappelait avant, d'arriver, de sécuriser les lieux et la victime pour ne pas éviter un suraccident, de pouvoir estimer l'état aussi de la victime, appeler les secours et ensuite seulement donner les gestes de premier secours.
Alors sécuriser les lieux, ça veut dire quoi? C'est quand on est en milieu routier, par exemple?
En milieu routier, tout à fait, mais en fait, quelles que soient les situations, il y a le besoin vraiment de vérifier qu'il n'y ait pas de possibilité de suraccident. Dans le cas d'un choc électrique, par exemple,
Ah oui.
si jamais la victime est encore en contact avec le câble électrique, il ne faut surtout pas la toucher. Et donc là, la première chose à faire avant même d'appeler les secours, c'est d'essayer de couper le courant.
En fait, vous incitez les gens à se poser les bonnes questions, pour que ça devienne finalement presque un réflexe d'action.
Oui, tout à fait.
Et alors, je crois que j'avais entendu parler une fois de PSC1 C'est deux, ça c'est quand on veut vraiment devenir un secouriste
Alors, le PSC2
émérite.
n'existe pas, à
Ah,
ma
ça
connaissance.
n'existe
C'est vrai
pas.
qu'il y a une continuité entre les formations qui sont à destination du grand public et les formations de secourisme en tant que telles. Et donc, les formations suivantes, c'est ce qu'on va appeler le PSE, premier secours en équipe, sur lequel vous avez deux niveaux, niveau 1 et niveau 2. Mais derrière, là, on est vraiment au niveau des pompiers, d'associations qui sont agréées de sécurité civile. Donc, il y a vraiment une distinction entre les associations qui dispensent les formations et les associations qui sont associées à la sécurité civile.
Il y a également aussi le SST, sauveteur secouriste du travail. Donc ça, c'est quelque chose que votre entreprise théoriquement peut vous financer, je pense, et qui dure également 2 jours. Donc je pense que ce qu'on peut dire, c'est que les gestes qui sauvent sont un premier pas, une première étape pour le citoyen qui souhaite devenir secouriste.
Alors toi, avant d'être à l'état-major de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, tu as travaillé dans les compagnies, c'est-à-dire pompiers de terrain. Est-ce que y a un type d'accident ou de pathologie que tu as le plus rencontré où tu t'es dit la formation des citoyens, elle est vraiment importante le temps que les pompiers ou les associations arrivent? Est-ce qu'il y a un geste de premier secours plus important que tous les autres?
Oui, alors les interventions qui m'ont marqué, et je pense que ce sont les interventions qui marquent le plus les pompiers ou les secourismes, c'est souvent avec les enfants. J'ai fait quelques interventions où effectivement des enfants, de très très jeunes enfants même, étaient en difficulté, voire en arrêt cardiaque, ça m'est arrivé, où les parents ou alors les nourrices étaient incapables de faire quoi que ce soit pour...
Totalement sidéré par...
Voilà, tout à fait. Pour réanimer l'enfant. Ça, c'est des interventions qui sont vraiment marquantes. Et je pense que c'est un domaine sur lequel il faut vraiment insister sur la jeunesse, quoi. Je pense pas vous détailler plus que ça l'intervention, parce que c'est peut-être pas l'objet de ce podcast, mais ça fait partie des interventions assez marquantes, ouais.
Je pense qu'on peut donner aussi quelques chiffres, et c'est vrai qu'en France, sur des arrêts cardiaques, on a plusieurs dizaines de milliers, on estime jusqu'à 50 000 personnes qui décèdent d'un arrêt cardiaque en France chaque année, et pour lequel, si on pouvait dispenser ces gestes de premier secours, on aurait un gain de survie en termes de capacité qui est énorme. Derrière, à côté de ça, on peut rajouter aussi plus de 20 000 hospitalisations sur des accidents de la vie courante et domestique. Donc il y a vraiment énormément de situations qu'on pourrait pallier.
Donc apprendre le massage cardiaque, c'est une nécessité pour tout le monde, et faire de la prévention sur ces accidents domestiques. C'est pour toi, ça serait les deux cibles majeures.
En matière de santé, c'est vraiment le minimum civique que chacun doit connaître et savoir appliquer.
Alors justement, est-ce qu'il y a une catégorie d'âge où on forme tous nos jeunes, je ne sais pas, en seconde ou quand on passe son bac, est-ce qu'il y a une obligation d'être formé ainsi au premier secours pour le moment?
Donc, à l'été 2020, a été votée une loi qu'on appelle la loi citoyen sauveteur, dans laquelle on doit garantir à tous les enfants, dans le cadre de leur parcours scolaire obligatoire, une dispensation du coup des formations aux gestes qui sauvent et un apprentissage du coup des gestes qui permettent de réduire justement les risques de la vie courante notamment.
Et c'est déjà en place ou ça se met progressivement en route? Ça doit pas être si simple, vous travaillez avec les rectorats, avec les
Oui, non,
établissements?
petit à petit, ça se fait quand même, et on le voit déjà au travers des chiffres. C'est-à-dire qu'en France, on considère qu'à peu près une personne sur 10 connaît très bien les gestes de premier secours, une personne sur 2 les connaît de manière approximative. Si on regarde au niveau des tranches d'âge, vous allez avoir à peu près 2 tiers des moins de 25 ans qui estiment bien connaître les gestes de premier secours, quand vous tombez à uniquement 1 tiers pour les plus de 65 ans.
Donc les jeunes, ils sont plus dans le coup que les anciens.
Petit à petit, oui.
Sachant que la loi prévoit aussi de former les partants à la retraite.
Ah, ok.
Voilà.
Parce qu'il y a un facteur de risque pour les personnes âgées peut-être
Oui, voilà,
plus
tout à fait.
important.
Ben, on sait que c'est avec le vieillissement de la population, on va avoir de plus en plus de retraités, donc les partants à la retraite sont une manne de secouristes. Donc effectivement, ça, la loi le prévoit. Ouais. Parce qu'on peut dire aussi au niveau de ce que prévoit cette loi, c'est puisque souvent les gens vont peut-être avoir peur d'agir, de se dire que s'ils font mal, ils risquent d'être embêtés, d'être voilà. La loi citoyen sauveteur protège les citoyens dans ce domaine, leur dire qu'ils ne seront pas tenus pour responsables en cas de décès de la personne, s'ils n'ont pas réussi à la réanimer, sauf faute grave, bien évidemment, de la part de la personne. Mais la loi protège les citoyens.
C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, il faut essayer, il faut se donner toutes les chances.
Voilà, quoi qu'il arrive, il faut
Même
vraiment.
si c'est une formation qu'on a eue là longtemps, qu'on ne se souvient plus trop, il faut y aller.
Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il vaut mieux faire pas exactement comme prévu ou un peu moins bien que ne pas faire du tout. C'est vraiment ce qu'il faut retenir.
Ça, tu l'as déjà constaté sur le terrain?
Alors, sur le terrain, oui. Et au niveau personnel aussi, puisque alors pour le coup, c'était ma mère qui avait passé son diplôme de secouriste du travail. Ça remonte à il y a 15-20 ans. Et lors d'une soirée, en fait, il y a une personne assez âgée qui a fait un arrêt cardiaque. Ma mère était formée au secourisme, elle a assisté à la scène. D'emblée, elle n'a pas forcément osé aller s'occuper de la personne. Ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle avait peur de mal faire. Et cette peur de mal faire a fait que cette personne, pendant quelques temps, n'a été prise en charge par personne, par aucun sauveteur. Donc quelqu'un est arrivé par la suite, mais ça a mis du temps. Et on a perdu des minutes, et les minutes sont précieuses. Ça me fait rebondir sur justement cette notion de minutes. Il faut savoir que pour un arrêt cardiaque, une minute où aucun geste ne sont effectués, c'est 10% de chances de survie qui sont en moins.
Donc il faut y aller tout de suite.
Donc il faut vraiment y aller tout de suite, il ne faut pas perdre de temps. Sachant qu'en France, en moyenne, le délai d'intervention des pompiers, c'est 12 minutes en moyenne. Mais il y a des endroits en France où ça peut mettre plus de 30 minutes.
Donc, quoi qu'il arrive, il faut un citoyen à proximité pour appeler les secours et pour agir,
voilà.
Quoi qu'il advienne. On ne peut pas juste attendre.
Le citoyen, c'est le premier maillon de la chaîne des secours. Voilà, c'est l'élément fondamental. Alors un citoyen c'est bien, un citoyen secouriste c'est mieux.
Et c'est pour ça que vous formez autant à la Brigade des sapeurs-pompiers, à la Croix-Rouge française et avec plein d'autres associations.
Voilà,
est-ce que les mairies, est-ce que les collectivités territoriales vous accompagnent puisqu'ils doivent être aussi en demande? Les habitants demandent à être formés.
Oui, tout à fait. Nous, on est beaucoup en lien avec la ville de Paris qui lance des programmes. Alors justement, il y a une journée qui a été créée l'année dernière, le 13 octobre, la journée nationale pour la résilience.
Vous faites beaucoup d'actions.
Et voilà, ce jour-là, il y a beaucoup d'actions de mener, notamment sur la sensibilisation aux gestes qui sauvent.
Et du côté de la Croix-Rouge française, quels sont tes principaux partenaires? Est-ce que c'est les villes? Est-ce que c'est des entreprises?
Alors c'est vrai qu'on va être partenaire avec beaucoup d'acteurs qui sont très divers. C'est-à-dire qu'au sein de la Croix-Rouge française, il faut savoir qu'on est aussi un acteur en termes de formation aux métiers du soin, aux métiers sanitaires et médico-sociaux. Donc on va avoir aussi plus de 10 000, pas quasiment 13 000 étudiants et étudiantes en France. Et donc là, on va former dans le cadre aussi de ces activités-là, des salariés. On mentionnait tout à l'heure les formations santé secouriste au travail. Après, c'est vrai que les mairies sont très demandeuses, puisque depuis quelques années, il y a une dynamique qui est à organiser des réserves communales de bénévoles, de citoyens. Et donc là-dessus, on doit les former aux gestes qui sauvent, aux premiers secours. Après, c'est vrai que les citoyens... Il faut rendre cette formation attractive, il faut la rendre lisible, il faut la rendre compréhensible. Et c'est aussi, je pense, pour ça qu'on est là aujourd'hui à pouvoir échanger, discuter sur ces fondamentaux.
Alors à la Croix-Rouge, vous avez cette spécificité aussi d'être très actif en situation de crise humanitaire. Notamment pour ces personnes qui travaillent dans les réserves communales, est-ce qu'ils ont aussi une formation à la gestion de crise de manière plus générale?
Alors ça peut exister. Dans certaines situations, on peut aider à accompagner, à organiser par exemple des exercices de simulation aussi, qui vont se faire très très souvent en collaboration bien sûr avec les pompiers, avec les fameuses 10 départementaux et d'autres associations de sécurité civile. Je pense qu'il y a aussi d'autres thématiques sur lesquelles petit à petit on identifie des besoins. Je pense au premier secours psychologique qu'on peut apporter en cas de survenue de crise, de catastrophe, et aussi comprendre simplement quel est le microcosme un petit peu des acteurs de l'urgence, parce que c'est vrai que ça prend en compte beaucoup, beaucoup de monde.
Du côté de la BSPP, tu as commencé en parlant des attentats. Est-ce que vous avez aussi des spécificités sur ce volet attentat, parce qu'on sait que Paris peut être touché?
Alors oui, on a des spécificités. On a, suite aux attentats de 2015, bien évidemment, on a développé, nous, des procédures pour intervenir en cas d'attentat. On a développé un nouveau groupe qui est spécialisé et qui intervient pour faire l'extraction des victimes sur les attentats. Et ensuite, justement, c'était l'objectif de se dire on a besoin de tout le monde lors des attentats pour prendre en charge les nombreuses victimes.
Ça permet peut-être aussi de susciter en situation de crise extrême comme les attentats, les bons comportements de la part des citoyens. Quand on est formé, même si c'est il y a longtemps, je pense qu'on est plus enclin à avoir les bons comportements.
Ah oui, tout à fait. En fait, c'est comme il le disait tout à l'heure, c'est une question de réflexe. Plus on fait, plus on sera serein le jour où on aura à agir lors de ce genre d'événement.
Est-ce que vous arrivez à former dans toutes les strates de la société ou dans tous les quartiers, ou est-ce qu'il y a des endroits où c'est plus difficile?
Alors nous, l'avantage, c'est qu'on a beaucoup de centres de secours répartis sur l'Île-de-France, sur Paris et la Petite Couronne, donc 92, 93 et 94. Et donc, on est en mesure de proposer des formations dans tout ce territoire.
Oui, je pense que c'est un avantage du système français aussi, qu'il y a beaucoup d'acteurs qui peuvent dispenser ces formations. Et donc, selon les départements dans lesquels on est, on ne va pas avoir non plus les mêmes acteurs qui sont mobilisés. Je pourrais mentionner par exemple la Croix-Blanche ou l'Ordre de Malte, qui sont présents dans certains départements et pas d'autres. Après, c'est vrai qu'en vis-à-vis de la brigade des sapeurs-pompiers et de la Croix-Rouge française, on a cette chance-là d'être vraiment présent sur l'ensemble du territoire métropolitain et ultramarin. Et donc, on peut vraiment bien dispenser ces formations à toute la population.
Alors, dans quelques jours, c'est la journée mondiale des premiers secours. D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on fait ce podcast, pour inciter tout le monde à aller se former. Donc, c'est une journée, on va un peu plus en parler. Mais ce type de formation, c'est vraiment toute l'année, partout en France.
Oui, tout à fait. Lors de la journée mondiale des premiers secours, au niveau de la Croix-Rouge française, vous allez avoir plusieurs dizaines d'événements qui vont être organisés partout en France et qui vont pouvoir proposer des sensibilisations gratuites sur l'espace public à toutes les personnes qui le souhaitent.
Est-ce que c'est pour vous, à la Croix-Rouge aussi, un moyen de recruter? Parce que quand on commence à pousser les portes de la Croix-Rouge, on découvre aussi tout le panel et le champ d'action de cette grande association.
Complètement. C'est un levier de recrutement. Il faut savoir que là, quand même, on est en 2023, on est à l'approche d'un des très, très grands événements avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Et donc, on est à la recherche de personnes qui souhaitent devenir secouristes. Et on les attend de pied ferme, du coup, pour leur proposer ce parcours de formation, de montée en compétences et de passage à l'action.
Pour les JO 2024, c'est pas trop tard? Si on commence en septembre 2023 à se former,
il faut se lancer là.
Mais là, il faut y aller, il ne faut pas trop tarder. Si on devait résumer en un mot, qu'est-ce que vous diriez? Faut pousser la porte de la Croix-Rouge, il faut se rendre dans les casernes des pompiers pour se faire expliquer, pour connaître les dates de formation. C'est un geste citoyen, on peut aussi amener les enfants, on peut faire ça en famille.
Oui, tout à fait, il faut surtout pas hésiter à venir se renseigner et à proposer ses services en tant que citoyen. Je pense effectivement que les gestes qui sauvent sont un premier pas vers l'acte de citoyen secouriste.
En situation d'urgence, on l'a dit, le pire c'est de ne rien faire, et je pense qu'en matière de formation, justement, c'est le minimum aussi qu'on puisse faire, c'est se renseigner, s'informer et passer le pas pour aller se faire former.
Eh bien écoutez, merci beaucoup à tous les deux, Anthony, Jérémy, pour vos témoignages. J'espère que tous ceux qui nous écoutent vous auront entendu et que les quelques-uns qui ne seraient pas formés parmi les auditeurs iront en ce mois de septembre se prendre les dates, fixer ça à son agenda pour assister à ces initiations et formations au premier secours. Et n'hésitez pas à faire ça avec les collègues, en famille, avec des amis. C'est aussi l'occasion de d'échanger, d'en parler. Et ça peut sauver une vie, on le dira jamais assez. Merci encore à tous les deux et bonne journée mondiale des premiers secours.
Merci beaucoup. Merci.